Phil PM. Politique.
Ben, je pense qu'il y a une perte de contrôle complètement au niveau des dépenses, une question de culture. La culture vient d'en haut. Alors, quand le premier ministre dit « c'est pas grave, je promets des déficits, on va faire des déficits », ben on sent un relâchement dans toute la bureaucratie.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Bon, alors on va continuer sur ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'est-à-dire les budgets du Sénat qui explosent. Mais là, on a deux points de vue qui sont complètement différents. Carl, bon, tu voulais commencer avec ce point-là. C'est pas 38%, ce serait 28% selon Madame Saint-Germain. Là, c'est quand même élevé.
Différence, hein? Ouais. Oh, 5 millions. Mais oui, mais c'est parce que le taux d'inflation, c'est quoi? 1%, 2% tout par année. Là, on parle d'une hausse de 30 ou 40%.
Ouais.
C'est invraisemblable. Enfin, moi, ce que les sénateurs m'ont convaincu de faire, c'est d'aspirer à devenir sénateur. Ils sont bien.
Ah, mais ça, on veut tous être sénateurs. Oui.
On serait bien, les gars. On serait bien. Écoute, on aurait des designers d'intérieur, toi, qui travailleraient pour nous autres, pour redécorer nos bureaux. Puis, je veux dire, j'ai passé 20 ans sur la colline parlementaire. Des bureaux parlementaires, là, ça ressemble pas mal tout.
Oui, c'est pas beau. Puis, c'est jamais bien, bien beau.
Oui. Puis, c'est pas besoin d'être beau. Je veux dire, ça a besoin d'être fonctionnel. Je veux dire, c'est pas un salon de thé, là.
Mais il reste que Madame Saint-Germain avait quand même certains arguments. Si, effectivement, on a comblé tous les postes, alors c'est normal que ça nécessite davantage de moyens, non?
Bien, ça, c'est un spin conservateur, évidemment. Disent, mais on avait moins de sénateurs dans le temps, mais ça fait partie un peu des considérations, effectivement, sauf que on a quand même engagé une centaine de fonctionnaires supplémentaires. Et l'autre argument, qu'on a plus de groupes maintenant qu'on a des sénateurs indépendants, attendons un instant, là, on peut garder le budget qu'on avait puis le séparer autrement. On n'est pas obligé d'augmenter la grosseur de la tarte. Ça tient pas debout.
Paul?
Ben moi, ce qui me chicote là-dedans, premièrement, j'aimerais ça savoir quelle part de l'augmentation est attribuable au nombre de postes qui ont été comblés. Donc, c'est juste qu'on a un Sénat complet par rapport aux années antérieures. Et deux, savoir quel est l'impact de la hausse du nombre de fonctionnaires sur la qualité du travail. Je comprends que ça va être difficile à démontrer. Mais tu sais, si on remet un peu le débat en perspective, il y a pas mal de gens qui souhaiteraient abolir le Sénat. Or, on le sait, ça requiert une modification constitutionnelle. Ouais. Les provinces, tout indique là, qu'elles ne seront pas d'accord pour ça. Donc, on est pris avec un Sénat. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? De le rendre aussi fonctionnel que possible. Est-ce que la hausse de dépenses s'inscrit là-dedans ou est-ce que c'est juste un espèce de laxisme dans le contrôle des dépenses? Madame Saint-Pierre avait aussi des bons arguments là, pour nuancer quand même Madame la hausse des coûts. Mais oui, c'est oui. Ça. Mais Madame Saint... Germain, merci. quand même, ça reste une hausse assez significative.
Ouais.
Puis, tu sais, pour répondre à ça, 22 postes de sénateurs qui ont été comblés sur une centaine, 105, je pense que c'est le nombre de sénateurs, c'est quand même juste 20%. Là, on augmente de 30 ou 40% selon la version. Il y a une augmentation substantielle qui est au-delà de l'inflation. Mmh. On parle d'abolition. Écoute, je vais te dire, je comprends la difficulté constitutionnelle, mais pendant mes années au NPD, à quelques reprises, nous, on a tenté de faire voter une motion pour couper les budgets du Sénat, pour qu'on coupe ça de moitié, pour que, OK, on est pris avec, là, mais on n'est pas obligé de leur donner des ponts d'or pour faire ce qu'ils ont à faire. Dans le fond, il ne faut pas oublier, ces gens-là ne sont pas élus. Ce ne sont pas des élus. Et non seulement ça, ils ont une job garantie jusqu'à 75 ans, même quand ils se font pogner des culottes baissées comme Mike Duffy, comme Patrick Brazeau, comme Pamela Wallin, ils se font pogner culottes baissées, puis ils sont encore là à empocher l'argent des contribuables avec une pension garantie.
Je comprends les réserves de Carl. J'ajouterais quand même juste que le Sénat commence à avoir à faire un travail un peu plus constructif. On l'a vu depuis deux années, particulièrement par rapport aux intérêts du Québec pour ce qui est de la protection des consommateurs face aux banques, aussi l'aide médicale à mourir, enfin les intérêts des provinces et des demandes du Québec par rapport à la légalisation du cannabis. Donc, je comprends bien les arguments de Carl, mais je voulais quand même juste avancer ou souligner aussi que le Sénat fait un meilleur travail, on peut pas le nier, depuis deux ans.
Sur ce point-là, faut toujours aussi comprendre que malgré les étiquette de sénateur indépendant, le groupe de sénateurs indépendants vote toujours quand même avec le gouvernement entre 80 et 90% des fois. Fait que l'indépendance là, qu'on a fait campagne en 2015, l'indépendance des sénateurs, ben elle est surtout une question d'étiquette, pas une réalité en termes de vote lors des votes au Sénat.
Bon, parlons d'un autre sujet, n'est-ce pas? Refroidissons un peu les ardeurs, là. Recul de la diplomatie au Cégep.
Le Sénat crée de la colère, là.
Ben oui, c'est incroyable. Le Sénat suscite de la colère, c'est fou.
Avec raison.
Bon, recul de la diplomatie au Cégep. Ça a l'air que le Cégep s'est rendu une affaire de filles, en fait.
Oui.
C'est vrai, les
oui.
filles réussissent mieux, elles sont plus nombreuses.
Mais ça, c'est pas nouveau. La nouvelle, c'est Daphné Dion-Vien qui nous apprend ça ce matin dans le Journal de Québec. Il y a un léger recul de la diplomation et l'écart entre les gars et les filles se maintient. Je comprends que le recul est pas majeur. Pour les gars, dans les 5 dernières années, on parle d'un recul de un peu moins que 2 points de pourcentage. Même chose pour les filles.
Ouais. Sauf qu'il était déjà bas pour les garçons.
C'est ça, sauf que on avance dans la mauvaise direction. On avance par en arrière. Un léger recul, ça reste un gros problème. Et l'écart entre les gars et les filles donc demeure à peu près 12 points de pourcentage. Donc, il y a un gros problème avec les gars.
Ce qu'il faut spécifier, par contre, c'est que c'est ceux qui obtiennent leur diplôme dans le temps, dans le temps requis, là, c'est-à-dire de 2 ans. Là.
Oui.
Parce qu'il y en a qui vont prendre un peu plus de temps, qui vont prendre de 3 ans, mais qui vont quand même obtenir le diplôme. Mais quand on regarde ceux qui l'ont dans le temps normal, c'est là que les écarts sont importants.
Oui, puis c'est vrai que il y a des jeunes qui vont être diplômés, ça leur prend juste plus de temps. Une des raisons pour ça, c'est que plus que jamais, les jeunes vont travailler durant leurs études. Mm-hmm. Autant parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils payent leur loyer, etc. Quand ils n'ont pas la chance, entre guillemets, d'habiter encore chez leurs parents ou parce qu'il y a une culture qui leur dit qu'ils doivent travailler pour pouvoir se payer toutes sortes de cossins. Ou si, quand tu parles aux gens dans les cégeps, ils racontent que les jeunes sont plus nombreux maintenant à changer d'orientation en cours de route, voire à prendre une pause pour faire un voyage, par exemple. Donc ça nuance un peu les constats, mais il y a quand même d'autres signaux d'alarme qu'on devrait voir là. Le premier, c'est qu'on a une explosion des jeunes avec des troubles d'apprentissage au cégep. Écoute, Louis, dans la dernière décennie, ça a augmenté de plus que 700% les jeunes au cégep qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Il y a plus de cas problèmes. Et le personnel au cégep, par rapport à celui au primaire ou au secondaire, ben, ils sont pas formés pour régler des problèmes plus qui relèvent carrément presque de la gestion de classe ou de l'aide aux personnes, aux jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. Là, ça fait pas partie de la définition tâche d'un prof du cégep. Donc, c'est des nouvelles difficultés, des nouvelles réalités. Puis, encore une fois, si on vient à la conclusion, là, c'est qu'il y a un recul alors qu'on aurait souhaité une avancée dans le taux de diplomation. Puis, il y a urgence d'avoir des interventions particulièrement ciblées auprès des garçons.
Ouais. Est-ce que, au niveau de l'orientation aussi, est-ce qu'on ne fait pas des erreurs en termes d'orientation sur le marché du travail, par exemple? Est-ce qu'on on a les bonnes ressources aux bons endroits? Est-ce qu'on évalue bien le futur marché du travail?
C'est une très bonne question. Par contre, je la dissocierais du taux de diplomation. Moi, j'ai parlé avec des directeurs d'établissements au cégep, puis ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a une extrême lourdeur avec le ministère de l'Éducation. Tu sais, les cégeps, t'as le DEC, par exemple, pour te préparer à étudier à l'université. T'as aussi des formations professionnelles où t'espères qu'à la sortie du cégep, tu puisses avoir un travail rapidement.
Ouais.
Ces formations-là, vu que c'est des formations pratiques, ben tu veux qu'elles soient arrimées autant que possible avec le marché du travail, puis qu'elles soient adaptées d'un cégep à l'autre. Ouais. Par exemple, t'as un cégep dans le Bas-Saint-Laurent, ben tu veux que les formations professionnelles soient liées avec les besoins sur le marché du travail. Or, ce que les cégeps disent, c'est super compliqué de modifier nos programmes, les ajuster parce qu'on est pris avec le monstre bureaucratique du ministère de l'Éducation. Donc oui, c'est un sérieux problème, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait directement au taux de diplomation comme tel.
Et il y a aussi que les cégeps, entre eux, se font compétition pour garder les programmes exclusifs, donc pour empêcher une certaine compétition, et ça crée, évidemment, ça ralentit le processus également.
Ouais. On va s'arrêter un tout petit moment, puis tout de suite après, on revient, on va parler de pipeline en Colombie-Britannique, ça brasse un peu, on revient dans un instant. 12h50, on va continuer, on va revenir, au fédéral avec Carl. D'abord, pipeline en Colombie-Britannique, la GRC va finalement faire son travail.
Ben, ils sont même passés à l'action. Je mets le contexte rapidement. Ça se passe au camp autochtone Gidemten, qui est près de Houston, une petite bourgade au nord de la Colombie-Britannique.
Ouais.
Depuis quelques mois, il y a des membres de la Première Nation, Wet'suwet'en, qui ont établi des points de contrôle, des barricades sur une route forestière pour empêcher l'accès des travailleurs au gazoduc Coastal GasLink. Donc, c'est un gazoduc qui est censé amener du gaz naturel, du gaz liquéfié de la côte britannique du nord vers la côte. Alors, on empêche les travailleurs de l'entreprise de passer à travers le point de contrôle, affirmant qu'ils ne peuvent pas passer à moins qu'ils aient le consentement des aînés. Alors, le mois dernier, la compagnie a obtenu une injonction demandant aux gens de cesser d'empêcher la société, les travailleurs, d'accéder à la zone. La GRC a décidé hier qu'ils allaient faire appliquer l'injonction et qu'ils allaient forcer la barricade. On a un extrait sonore.
Bon, alors, ça avait l'air à brasser.
Ça a brassé, et même à un moment donné, certaines des vidéos qu'on voit sur les médias sociaux, il y a un type qui semble se faire empoigner le bras, même casser le bras, c'est les mots qu'on entend, vous êtes en train de me casser le bras, ça crie beaucoup. Évidemment, c'est le début, messieurs, je vous le dis tout de suite, là, c'était une manifestation pacifique, évidemment, il y avait une barricade, mais il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas d'armes sur les lieux, là. C'était une manifestation qui se voulait pacifique. Et là, la GRC a décidé d'entrer et d'arrêter 14 personnes pour avoir défié l'injonction. Du côté des aînés, on dit que, bon, nous, on ne reconnaît pas les ententes qui ont eu lieu entre la compagnie TransCanada, à qui appartient ce gazoduc, et le conseil de bande. Il faut dire que TransCanada dit qu'elle a des ententes avec les conseils de bande tout le long du tracé, sauf que c'est plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, au sein des conseils de bande, il y a des clans. Au sein des clans, il y a des familles, et ceux qui ne sont pas d'accord, bien évidemment, ils décident de manifester, de bloquer l'accès. Et là, avec tous les autres projets qui sont en route, avec les tribunaux qui penchent de leur côté régulièrement, mais le gouvernement qui décide d'aller de l'avant quand même, c'est une situation qui risque de se répéter.
Et devenir peut-être explosive.
Et l'autre chose, aujourd'hui, Premier ministre Justin Trudeau participe au Forum du Canada et des Premières Nations sur la gouvernance et la signature de traités modernes. Donc, il prononce un discours d'ouverture. Est-ce qu'il va parler de la situation là-bas? Je ne le sais pas. Chose est certaine, les groupes là-bas sont pas très contents de l'intervention de la GRC. Et le député local du NPD a tenté de faire de la médiation, mais force est de constater que ça n'a pas fonctionné.
Bon. Parlons de la gratuité scolaire. Québec est en train de consulter. Ça, c'est toujours dossier extrêmement, épineux, n'est-ce pas, et délicat.
Oui, parce que, Louis, la gratuité scolaire, ça coûte quand même cher.
Oui.
c'est pas juste une blague, je suis
sérieux. Les choses gratuites, généralement, coûtent très cher.
Les choses gratuites viennent parfois avec un léger extra que tu découvres en tout petit caractère à la fin du contrat. Puis c'est le cas avec la gratuité scolaire, parce que la loi, elle est formulée en termes assez imprécis. A priori, c'est pas une mauvaise chose parce que ça donne une certaine latitude aux commissions scolaires pour dire même si on respecte la gratuité scolaire, des fois on va avoir un certain projet, par exemple, une sortie culturelle où l'on se permet de facturer un peu plus. Mais on le voit, il y a pas mal de commissions scolaires qui en profitent pour facturer là, de façon arbitraire et même abusive. Je te donne quelques exemples qui avaient été soulignés à l'époque par le Parti québécois, 900 $ de frais annuels pour la surveillance de dîner, alors qu'à d'autres endroits, tu ne l'as pas. 70 $ de frais pour une salle de conditionnement physique qui, par ailleurs, n'est pas utilisée. Ouais. 40 $ de frais de photocopieuse. On le voit, c'est le bordel là-dedans.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on le sait. L'opposition le dénonçait. Le ministre Sébastien Proulx, sous le gouvernement Couillard, avait formulé une directive pour essayer d'encadrer les frais. Puis finalement, ça n'a rien changé. Fait que là, on arrive avec un nouveau gouvernement et ils ont le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a rencontré les groupes concernés dans les dernières semaines. Là, je parle des commissions scolaires, etc. Et il élargit la consultation aux parents. Donc, à tous les parents qui nous écoutent puis qui trouvent que la gratuité scolaire, ça se paye avec une Mastercard,
mais participez
à vos claviers, à vos téléphones, videz votre cœur.
Est-ce que le ministre Roberge a encore dit qu'il était préoccupé?
J'ai pas vérifié les adjectifs récemment employés, mais il agit comme un homme préoccupé parce qu'il consulte et il veut agir. Puis quand je dis qu'il veut agir, c'est pas juste la consultation. Il promet de déposer un projet de loi, puis ça presse, hein, parce que la rentrée septembre 2019, ça arrive vite. Hein, il faut que ça se prépare, il faut que ça se budgète et les écoles doivent savoir ce qu'elles pourront ou ne pourront pas faire payer. Puis on sait qu'elles ont déjà payé le prix, hein, les commissions scolaires qui ont été trop loin. Souviens-toi, en 2017, il y a eu un recours collectif et finalement, ça s'est réglé à l'amiable l'année dernière, mais 153 millions de dollars que les commissions scolaires ont dû rembourser. Et le recours collectif ne portait que sur le matériel didactique, donc pas d'autres exemples que je t'ai mentionnés comme les surveillances pour le dîner, etc.
Parce que je dis ça parce que on a vu le ministre Roberge être très préoccupé au cours de la première la courte session parlementaire. Il était préoccupé, c'est un paquet d'affaires, mais il n'y avait pas tout le temps les solutions. On comprend qu'il arrive, puis que les dossiers sont importants, puis qu'il faut bien réfléchir, se faire une tête, tout ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être préoccupé. Puis commencer
à agir, sur un dossier d'une importance importante, pourrait-on dire. Mais peut-être en terminant, le gros risque pour le ministre Robert, ça va être de l'éparpillement, parce que là, il y a à peu près 8 priorités avec lesquelles il jongle en parallèle. Mais il va falloir définir des priorités prioritaires puis des niveaux d'importance aux dossiers importants.
Voilà.
Et certaines de ces priorités-là ont des incidences budgétaires qui sont des vases communicants.
On se reparle demain, messieurs.
À demain.
À demain, au revoir.